Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelle étonnante étoile, mes frères, étonnante non pas seulement aux yeux des mages qui partirent à sa suite, ni des astronomes ou astrophysiciens qui, encore aujourd'hui, essaient de déterminer quelles ont pu être sa nature exacte et son parcours dans le ciel, mais étonnante quant au plan même de l'Évangile, dont elle semble venir troubler la belle ordonnance. N'est-il pas clair, en effet, que durant sa vie terrestre, notre Sauveur a voulu réserver sa prédication et ses miracles à son propre peuple, le peuple élu de Dieu, le peuple juif, et que l'Évangile ne devait être étendu au monde entier que dans un second temps, par l'intermédiaire du peuple élu, et en l'occurrence, par l'intermédiaire des 12 apôtres, en l'honneur des 12 tribus. Tout l'Évangile montre ces deux étapes successives. D'abord, l'évangélisation du peuple élu, avec les missions en Galilée ou en Judée, et ensuite seulement, après la passion, la mort et la résurrection de notre Sauveur, et par la vertu du Saint-Esprit donnée aux apôtres, l'évangélisation des autres, les gentes, les gentils, les non-juifs, les goïmes, ceux qui n'étaient pas le peuple élu. Et cette distinction est très nette dans tous les évangiles, quoique de façon un peu différente. Dans l'évangile de Saint Matthieu, elle est marquée de façon plus négative par les refus ou les réticences de Jésus, par exemple face à la Cananéenne, qui doit longtemps insister pour obtenir la guérison de sa fille. De même, lorsque Jésus envoie ses apôtres faire une tournée missionnaire pour les former à la prédication évangélique, il leur recommande « N'allez pas du côté des païens ou des samaritains. » Et ça n'est qu'après sa résurrection, juste avant son ascension, qu'il modifie sa consigne et qu'il annonce à ses apôtres qu'ils vont maintenant devoir aller évangéliser toutes les nations. Si on regarde un autre évangile, celui de Saint Luc, les choses ne sont peut-être pas présentées de façon aussi marquée, car il n'insiste pas sur les consignes négatives de Jésus. Et il montre comment, avant même la passion, certains païens ont été atteints par l'Évangile. Mais il est clair que ce sont des exceptions. Et Saint Luc, plus que tous les autres, montre l'importance de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte pour lancer l'évangélisation du monde. Saint Jean, pour sa part, sans donner à nouveau le récit de la Pentecôte, insiste sur les confidences de Jésus au sujet du Paraclet, le Saint-Esprit qui sera donné aux apôtres après son départ et qui leur rappellera et leur fera comprendre tout ce qu'il a enseigné. On a ici, mes frères, l'impression très nette que ces deux étapes du Nouveau Testament qu'on vient de mentionner, d'abord la prédication de Jésus au peuple élu, et ensuite, dans un deuxième temps, la prédication des apôtres au monde entier, ne sont pas seulement une succession chronologique, mais qu'elles correspondent de façon bien plus profonde à deux missions éternelles. La mission du Verbe incarné et la mission de l'Esprit paraclet. Et ces deux missions éternelles correspondent elles-mêmes de façon très profonde au mystère de la vie trinitaire. Car le Verbe de Dieu étant essentiellement Fils est entièrement tourné vers son Père. Il a donc essentiellement parlé du Père. Il a porté témoignage du Père. Il n'est pas venu s'affirmer lui-même, ni proclamer solennellement sa propre divinité, ni se rendre témoignage à lui-même, mais rendre témoignage au Père. Et ainsi, il convenait, d'une part, que le Père lui-même rende témoignage à son Fils, et d'autre part, que le Saint-Esprit vienne à son tour instruire les apôtres sur la deuxième personne de la Sainte Trinité, leur faire mieux comprendre qui était ce Fils de Dieu qui s'est incarné pour venir les enseigner. Et il est venu les instruire, non pas de façon extérieure, comme le Verbe incarné, mais de façon plus spirituelle, en leur donnant une lumière intérieure pour bien comprendre eux-mêmes et bien transmettre aux païens, aux gentes, au monde entier, cet enseignement. Et alors, mes frères, là-dedans, que vient faire l'étoile des mages? Cette étoile qui, dès la naissance du Sauveur, vient amener des païens, des gentes à son berceau, ne bouleverse-t-elle pas tout le beau plan qu'on vient d'exposer? Ne contribue-t-elle pas à mêler et à confondre ce que la sagesse de Dieu avait savamment distingué? Ah, mes frères, c'est que nous oublions que Dieu, lui, s'est distingué sans séparer et qu'il aime annoncer à chacune des étapes de son plan les étapes suivantes. Dès maintenant, dans la vie sacramentelle qui nous a été donnée par Jésus, nous avons des annonces de ce que sera le ciel, et particulièrement dans la Sainte Communion, où nous recevons notre Dieu sous forme de nourriture, nous avons une préfiguration très haute de ce que sera la vie du ciel, où nous recevrons notre Dieu qui sera notre vie. Eh bien, il en va de même à chacune des étapes de l'histoire du salut, et il convenait que l'étape de la prédication universelle soit aussi annoncée dès la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe dans cette fête de l'Épiphanie. On peut dire qu'on a comme une annonce de la Pentecôte. D'une certaine manière, l'Épiphanie est à Noël, ce que la Pentecôte est à Pâques, c'est-à-dire il y a eu la victoire de Jésus qui d'abord a été annoncée par les anges aux proches de Jésus, à Pâques, à Marie-Madeleine, aux apôtres, à tous ceux qui l'avaient connu. Et ça n'est que dans un deuxième temps que cette victoire de Jésus a été annoncée au monde entier, à la Pentecôte, et cela s'est fait par la venue du Saint-Esprit qui a suscité un grand trouble dans tout Jérusalem, qui a rassemblé les gens autour du Cénacle, et Saint-Pierre a pu publiquement prêcher la résurrection. Ou bien il y a quelque chose d'analogue dans le mystère de Noël, qui a d'abord été annoncé aux proches, aux petits, aux bergers, qui a d'abord eu cette teinte familiale, mais qui devait aussi avoir d'emblée cette résonance universelle qu'il a eue par la venue des mages. Et on remarque une assez grande similitude entre les deux événements. Des deux côtés, il y a un trouble à Jérusalem. Lors de la Pentecôte, c'est ce bruit d'un souffle violent qui étonne tout le monde, qui rassemble la foule. Et à l'Épiphanie, voici, parce que l'Esprit souffle où il veut et on ne sait pas d'où il vient, voilà qu'arrivent tout à coup ces mages qui troublent tout Jérusalem, nous dit l'Évangile, en demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître. Cette étoile est intervenue un peu de la même façon que le souffle du Saint-Esprit. Elle a éclairé à la manière de ces langues de feu. et elle va produire un effet analogue puisqu'elle va mener à notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même que l'Évangile précise que les mages ont trouvé l'enfant avec Marie, sa mère, de même, saint Luc tient à préciser que les apôtres étaient réunis avec la Sainte Vierge lorsque le Saint-Esprit est intervenu à la Pentecôte. Il y a un parallélisme entre les deux événements. Nous avons donc d'emblée cette annonce qui a porté de façon mystérieuse, de façon encore silencieuse, les mages ne recevront aucun enseignement de notre Seigneur Jésus, de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudra attendre pour cela que notre Seigneur ait prêché à ses apôtres. Ce sont bien ses apôtres, selon le plan divin, qui transmettront au monde entier l'Évangile. Et néanmoins, nous avons déjà cette annonce de la victoire universelle du Christ. Et on peut dire que d'une certaine façon, l'événement de l'Épiphanie, qui est comme une annonce de la Pentecôte, va beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus profonde. Plus encore que la Pentecôte, il annonce cet âge de la chrétienté, où l'on verra les sages et les rois venir se prosterner devant notre Seigneur Jésus-Christ et le reconnaître comme leur roi. Voilà ce qui caractérisera l'âge chrétien, ce qu'on appelle la chrétienté. Et voilà ce qui déjà est annoncé par l'Épiphanie, par cette première victoire, on peut dire, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, en ce jour de l'Épiphanie, nous pouvons, mes frères, nous rappeler que nous entamons cette année 2025, le centième anniversaire de l'année 1925, qui a été celle de l'encyclique Quas Primas sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Auparavant, il n'y avait pas de fête du Christ-Roi parce que, d'une certaine manière, cette fête de l'Épiphanie en tenait lieu. Nous avions notre fête du Christ-Roi dans la fête de l'Épiphanie et c'est seulement parce que cette royauté de notre Seigneur a été obscurcie de façon extraordinaire à notre époque qu'il a fallu renforcer encore les choses et la souligner par cette fête du Christ-Roi. Rappelons-nous également, et ça n'est certainement pas un hasard, si une sainte comme Sainte Jeanne d'Arc, qui est venue restaurer la chrétienté qui était déjà en cours de dissolution, en venant rappeler comment les rois devaient se soumettre au souverain roi, notre Seigneur Jésus-Christ, ça n'est pas un hasard si Sainte Jeanne d'Arc est née le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier 1412. Et nous pouvons donc profiter de cette fête pour prier aussi pour notre pays, prier pour toutes ces vieilles nations de chrétienté. Nous savons qu'il y aura une apostasie universelle. Nous avons sous les yeux déjà cette apostasie. Nous ne savons pas si nous sommes à l'étape très proche de la fin ou simplement une étape annonciatrice, mais en tout cas l'apostasie est bien là, mais ça ne doit pas nous empêcher de prier. Nous avons le devoir, nous avons le droit d'abord et le devoir de prier pour que, autant qu'il puisse se faire, autant que c'est dans le plan de Dieu, continue à rayonner la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre pays. Notre Seigneur Jésus-Christ a apporté énormément de bienfaits par sa royauté. Il a, on peut dire, toute la France et toute la chrétienté en général a reçu de lui, a été construite par lui, parce qu'il a apporté de lumière, de vérité, de bonté, de force, de grâce. Essayons de profiter de cette fête de l'Épiphanie pour supplier notre Seigneur Jésus-Christ de bien vouloir encore, autant que possible, exercer cette royauté sur nous et sur notre pays et sur nos vieux peuples chrétiens. Prions-le par l'intermédiaire de nos saints, notamment Sainte Jeanne d'Arc, puisqu'elle est née un 6 janvier, puis bien sûr de la Sainte Vierge Marie, là encore, ça n'est pas un hasard, si aussi bien à l'Épiphanie qu'à la Pentecôte, non seulement elle était là, mais les auteurs sacrés, inspirés par le Saint-Esprit, ont voulu souligner qu'elle était là. Et donc, c'est pour que nous recourions tout particulièrement à son intercession. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.